Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106. Au programme aujourd'hui, les interviews de We Hate You Please Die, John Spencer et Olivier Marguerite.
Radio Lomax, l'émission du 106.
We Hate You Please Die, Raphaël Balzari, Chloé Barabé, Joseph Levasseur, Mathilde Rivet. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment-là. Bonsoir à vous, Raphaël.
Salut.
Ouais, peut-être se tutoyer, on verra comment ça va se passer.
Ouais, tutoyons-nous, c'est très bien.
Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment parce que nous suivons l'évolution de ce groupe rouennais avec beaucoup d'attention. D'abord parce que dès le premier live, il nous a impressionnés, parce que les morceaux semblent parler à plusieurs générations de la même façon, parce que la démarche est vraiment sincère, ça se sent, parce qu'on connaît aussi un peu Raphaël, le chanteur qui a bossé pour Radio Lomax il y a quelques années, de ça avec Anne-Charlotte Gellet, que Raphaël continue d'ailleurs de temps en temps de nous donner quelques coups de main, même si c'est un peu moins simple aujourd'hui qu'hier. Alors bienvenue Raphaël cette fois-ci en tant qu'invité de cette émission.
Merci.
On est très content. Alors, grâce à une interview de lycéens, j'ai appris que le nom du groupe venait d'un film de Scott Pilgrim, dans lequel un groupe Crash and the Boys s'adresse à un type du public dans ces termes.
Thank you.
Not a race, guys.
All right, this next song goes out to the guy who keeps yelling from the balcony. It's called We Hate You, Please Die.
Sweet. Love this one.
Quelque chose à ajouter, Raphaël?
Ah ben non, c'est un moment que j'ai trouvé super dans ce film. C'est un film d'avec Edgar Wright qui a fait la trilogie Cornetto avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz et je crois que c'est Dernier Bar avant la fin du monde. Réalisateur que j'adore, qui est imprégné pop culture de plein de trucs. Et il a adapté cette BD, donc c'est déjà... J'étais super fan de la BD avant. Et de passer à l'étape film, du coup, il y a la BO en plus, que tu n'as pas forcément dans une bande dessinée. Et à ce moment que je trouve juste hilarant où le mec commence à se dire ouais, la chanson elle est pour toi, elle s'appelle Wet You Please. J'ai trouvé ça tellement en fait sincère, viscère, genre on chie dessus. Et du coup on s'est dit ça fera un super nom de groupe quoi. Et c'est parti de là, entre autres.
Premier album intitulé Kids Are Lofi, sorti en octobre dernier, enregistré à Rouen avec Adrien Dépinay de Mannequins et Hugo Magontier de Cerveau. Le groupe revient de Bourges, est parrainé par le 106 et également lauréat du tremplin Jeune Session Beauregard 2019. Wow, que de prix, d'honneur et de congratulations. We Hate You Please Die, naissance en 2016. On revient sur la création du groupe. Comment tout ça démarre? Dans quelle ambiance? Quel état d'esprit?
Alors à la base, toute base, moi ça fait des années que je rêve de faire un groupe. Hein. C'est depuis que j'ai 15 ans, je bois du rock'n'roll, je bois des influences d'un peu partout. Mais un jour j'aurai un groupe. Sauf que je suis pas hyper assidu en tant que musicien. Je commence à faire de la batterie un peu à droite à gauche. Mais j'adorais écouter de la musique. Et c'est retrouvé qu'un jour j'ai passé une soirée avec Chloé, donc qui fait la basse. C'était il y a 7 ans. Je venais d'arriver à Rouen pour faire mon stage. Pour mon IUT. Et dans la soirée, elle commençait à chanter. Je lui ai dit, non, attends, tu chantes super bien. Attends, vas-y, rechante encore. Finalement, on a passé la soirée à chanter et tout. Si un jour on fait un groupe, on le fait ensemble. Et ça a été hyper polymorphe, toutes les étapes. On a fait un peu de folk, Mignonette, Leo Smith et tout. Enfin, c'est des trucs qui sont introuvables nulle part. On s'est barré sur du Atari Teenage Riot Like, un truc un peu digital hardcore. Et il y a 3 ans, on s'est dit, nous, ce qu'on a envie de faire quand même, c'est un truc hyper abrasif, pète la gueule, mais en même temps pop, parce qu'on tient vraiment à ça, la pop aux chansons, l'école cobanienne, Nirvana, tout ça. Et j'ai fait le premier titre, Kill Your Body, et il s'est retrouvé que c'est Chloé qui devait chanter, et en faisant les maquettes pour lui faire les parties, je me suis dit, les gens me disent, mais tu chantes bien et tout aussi. Donc moi qui étais quand même au degré zéro de la confiance en soi et tout, ça m'a un peu donné des ailes pour essayer de continuer un peu plus. On en a refait un deuxième bout de maquette et tout. Et si tu veux toute la petite histoire, il y a 3 ans quand j'ai emménagé, si tu veux la complète, Quand je suis devenu végétarien, je me suis dit, putain, ce serait trop bien d'avoir un appartement à Rouen avec un petit jardin pour faire pousser mes légumes, des trucs comme ça. Je trouve un truc à 100 mètres de chez moi pour moins de 450 balles sur le Bon Coin. Les photos étaient dégueulasses et tout, mais je suis allé visiter, c'était pas loin. Et bah, du coup, je prends l'appart et 2 semaines plus tard, il y a Joseph donc, qui fait la guitare, qui emménage avec son amoureuse. Et bon, on se parlait, mais tu sais, relation de voisins, bon, bah, vous êtes en face et tout, mais on a des jardins mitoyens. Et un jour, je suis en train de bosser à mon bureau et j'entends un pur son qui sort de je ne sais pas où. Donc je sors dans mon jardin, je commence à tendre l'oreille un peu partout. Ça venait de chez Joseph. Et c'était pas un mec qui écoutait de la musique, c'est un mec qui jouait de la musique. Du coup, je fais, c'est trop bien. Du coup, je vais toquer à sa porte. Je fais, tu peux venir parler 2 secondes et tout. On s'assoit, on prend une petite bière. Je fais, moi, j'ai fait ça comme maquette. Je lui fais écouter. Je fais, tu veux pas être dans mon groupe? Il fait, ok. Et ça, c'est parti comme ça.
Il y a quelque chose de très naturel dans tout ça. Alors, le groupe est proche du collectif de groupe rouennais Sosa, mais il y a une figure du rock rouennais qui, à mon avis, joue un rôle particulier. Grand Gourou, MD Eyes, Grand Gourou, c'est celui qui montre la voie. Quel rôle joue-t-il dans le processus de création du groupe Wait You Please Die, dans sa projection
Bah, c'est marrant que ce soit justement particulier, parce qu'on vient tous les deux d'Ifto.
À proximité de Rouen, ouais.
C'est ça. Et on avait tous les deux à Ifto, enfin, c'est une ville morte, on déteste Ifto. Enfin, désolé pour les sauvetaines, mais c'est une ville horrible. On y a vécu des années, collège, lycée, de merde. Et par contre, on avait une médiathèque, mais incroyable. Tu pouvais prendre 5 CD par jour et tout. Et on s'est fait comme ça, notre culture musicale. À l'époque, on ripait les CD pour regarder une collection géniale. Et il y a eu du John Spencer. Et ça fait partie des influences communes que j'ai avec Thomas, donc Grand Gourou, que j'ai rencontré donc, au lycée. Enfin, on était au collège ensemble, mais on a eu notre premier groupe ensemble il y a des années. C'est passé un truc d'ailleurs assez incroyable, c'est qu'il était en fait avec une boîte à rythme, avec un pote à lui, et son premier groupe s'appelait Epos. Je lui ai dit, bah, moi je fais un peu de batterie. Bon, très mal à l'époque, tu vois, j'étais encore chez ma mère. Je fais, bah vas-y, on tente ensemble. Et la première répète, il est arrivé. Et dès quasiment les premiers coups de baguette où on a commencé à jouer ensemble, il a commencé à se tordre dans tous les sens et à devenir le Grand Gourou qu'on connaît maintenant. Enfin, ce personnage qui est hyper important. Enfin, autant presque pour moi que John Spencer, parce que c'est des influences, même si c'est mon pote, tu vois. Et il a cassé mon BZ là où je dormais, ce qui fait que je chopais une scoliose pendant des mois parce qu'il a éclaté le lit où je dormais. Et je me suis dit, putain, mais c'est trop bien. Et je l'ai retrouvé des années après avoir fait mes études. Et ouais, enfin, Thomas a toujours été une grosse inspiration à Rouen. Pour tout ce qu'il fait, sa façon de vivre le rock, la musique de façon viscérale, d'être prolifique, d'être partout, d'être hyperactif en fait. Et sur ça, sur l'hyperactivité, je pense qu'on se retrouve beaucoup, quoi.
Alors rapidement, le groupe se produit sur scène où le succès est assez immédiat. Hein. Les bars, les petits clubs se remplissent sans rien faire quasiment. Ensuite, il y a le premier album qui arrive vite aussi, Kids Are Lo-Fi, avec Adrien Dépinay de Mannequins. Et Hugo Magontier de Cerveau. Et donc c'est eux qui ont enregistré ce premier disque de Rouennais. Comment ça s'est passé avec eux? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre en avant tout de suite? Qu'est-ce que vous leur avez demandé? Qu'est-ce qu'ils ont senti tout de suite? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Déjà, ils m'ont beaucoup aidé parce que, en termes de recording, fin d'enregistrement, on ne va pas dire qu'on est hyper aguerri. Donc, on va forcément voir les copains qui s'y connaissent un peu plus. Et bah, ça a été bien parce qu'on était très habitués à notre son en live parce qu'on enregistrait toutes nos répètes, on essayait de travailler tout ce que, notre son en fait. Et ils ont apporté justement la patte studio qu'on n'avait jamais faite. Enfin, on a fait des prises live. Ils sont allés chercher un son un peu lofi, qui au départ en fait nous a un peu surpris parce qu'on était tellement habitués à écouter nos répètes. Et ils ont rajouté cette patte un peu dirty pop. Enfin, ils ont très bien cerné le truc, peut-être même mieux que nous à ce moment-là, pour du recording. Et c'est surtout en plus, c'est Hugo Et Adrien, bah, pareil, qui sont des copains dont on aime le boulot. Enfin, de toute façon, je suis hyper fan de tout ce qui se fait, sans être chauvin. On a déjà eu ces discussions, mais c'est dingue à quel point mes premières inspirations, c'est mes copains ou les gens qui gravitent autour de Rouen. Quoi. C'est, depuis 7 ans que je suis à Rouen, c'est eux qui nourrissent en plus, toujours un peu plus, ce que on a envie de faire en musique, quoi, quelque part.
Et donc Kids Are Lofi voit le jour 10 chansons, dont Minimal Function, Melancholic Rain, c'est les deux titres clippés pour le moment. Ils expriment tous les deux un certain dérèglement, l'ultra-consommation, la fête qui se termine un peu glauque, l'usage des drogues qui détruit. C'est avant tout ce que vous cherchez à souligner dans la génération des moins de 30 ans, une sorte de pressurisation qui mène à ce qui semble être quoi, une voie sans issue.
Ça matérialise beaucoup de peur en fait, que ce soit la décadence occidentale, si on peut utiliser le terme. C'est la peur en fait, sur plein de trucs. Enfin, il y a tellement de combats en fait à mener qui devraient tous être de front. Bon, là, sur les deux sujets que tu as dit, oui, enfin, l'hyperconsommation, le fait qu'on s'est. Enfin, la dissonance cognitive, c'est ça le. Si tu peux lâcher le mot, c'est. On sait très bien que c'est la merde. Mais pourtant, on va pas y aller, tu vois, tu sors un paquet de club, t'as un énorme message en disant que tu vas crever si tu le fais, mais tu fumes quand même. Bah, c'est un peu la même chose sur l'hyperconsommation, c'est un peu la même chose sur ces soirées, pour Minimal Function, où tu te retrouves, tu fais pourquoi je suis dans cette soirée, pourquoi j'aurais pu rentrer chez moi et tout. Mais t'as ce truc de dissonance cognitive, ça se trouve, il va se passer un truc incroyable, le monde va changer et tout. Mais non, le monde change pas du tout, et c'est pas en soirée que tu vas le changer, quoi.
Et dans votre vie, à vous, cette prise de conscience, elle a un impact aussi ?
Tu veux préciser ta question ?
Je ne sais pas, est-ce que vous avez changé des façons de faire, des façons de vivre, de consommer, d'envisager les choses ? Je sais qu'il y a eu la rencontre avec 3C aussi, qui est un tourneur, qui donc propose des dates à des groupes. Vous avez signé avec ce tourneur 3C. Je sais qu'il y a eu des discussions, notamment aussi avec 3C, sur la façon aussi de voir les choses, quoi.
Ça a été un bel apport. Le truc, c'est que le groupe, déjà c'est con, mais le groupe est pas vieux, ça fait 2 ans. Le temps d'apprendre à se connaître et tout, et de faire de la musique, on a remarqué aussi qu'on était très politisé, enfin plus ou moins à diverses échelles, et qu'il fallait qu'on mette ça en avant. Et plus le groupe avançait, plus sur le propos, c'est quand même un truc basé sur un peu la colère et les frustrations, enfin le besoin de sortir des choses, quoi. Et on a réalisé qu'on était quand même assez en raccord politiquement. Et politiquement, ça a amené parce qu'on parle de ça, de petits trucs qu'on peut faire déjà nous à notre niveau, en plus de la musique. Et le truc avec 3C, ça a été des trucs, c'est des trucs trop couillons, mais qui ne le sont pas du tout. Il nous dit, on peut mettre des gourdes plutôt que d'avoir des bouteilles, virer tous les trucs, des sneakers, des lions de merde, des loges si possible, pour avoir des choses du coin. Enfin, c'est des petits gestes comme ça, sur lesquels, qui ne changeront pas, mais qui sont toujours là, quoi.
Bon, en tout cas, la route est presque tracée, en tout cas pour les semaines qui viennent. C'est la saison des festivals qui démarre. Il y a eu Bourges, Avenir, Beauregard, Aéroville-Saint-Clair. Ça sonne à la porte les 8 et 9 juin, festival gratuit dans l'heure près de Danville. Rock in the Barn en septembre à Giverny. Il y a d'autres dates de festivals à annoncer ?
Normalement, ça devait être secret, mais je crois que c'est Rock en scène, normalement, on fait ça.
Rock en scène à Paris ?
Les nuits de Saint-Sauveur aussi. Qui sont, j'ai plus le nom exact, mais c'est en train de se goupiller un peu. Le fait d'avoir un tourneur maintenant, c'est que il nous aide vachement dans la recherche.
Il y a beaucoup de dates qui vont tomber dans les semaines qui viennent, a priori.
C'est plutôt cool, quoi.
Et alors, il y a des nouvelles chansons, un nouvel album. Ça fait que 6 mois qu'il est sorti, Kids Are Lofi. Il y a déjà des choses nouvelles qui se profilent à l'horizon, ou est-ce qu'on attend un peu ?
Attends, ça fait 6 mois, j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'il est sorti. On a déjà quasiment presque un nouvel album décrit, enfin peut-être pas. Beaucoup de chansons décrites qu'on va jouer un peu ce soir, qui vont peut-être pas être. Qui vont faire encore plus le grand écart que comme on faisait dans Kids Are Lofi, c'est-à-dire toujours plus de pop, mais toujours plus d'abrasif de l'autre côté. Quoi.
Bon, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Merci Raphaël d'être venu dans Radio Lomax. Thank you.
John Spencer n'a pas vraiment donné une interview, mais plutôt une prestation assez explosive, mais malheureusement peu radiophonique. J'ai quand même réalisé un petit best-of de 2-3 minutes. A titre informatif, les sons extraterrestres que vous allez entendre proviennent du téléphone portable de l'un des membres du groupe.
Ils sont là, ils sont remontés comme des coucous et ça va encore être une belle émission. Exit Pussy Galore, The Blues Explosion ou Heavy Trash. Voici donc John Spencer and the Hitmakers.
La figure. Hey, 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 hey. Hey, come on, buddy, yeah! Live in the house, you know what I'm talking about?
It's the Haymakers
at the 106. We're on 106 Radio live right now,
yes.
Taking the phone calls. What's the number? Phone number. People want to call in. Win tickets, prizes, vinyls, posters, T-shirts.
No.
What number do they call?
No number.
1-800-555-26106. Call in right now. 69. It's me, your old friend John Spencer. I'm here with Sam Coombs.
J'avais envie de vous faire écouter un extrait de la dernière émission de Radio Lomax avec John Spencer, mais on va pas le faire. Allez-y, je vous laisse jouer. Quel genre d'aventure vous vivez là maintenant?
So what sort of an adventure are you going through with the Hitmakers? Can you let us know?
We're going for a rock and roll adventure.
Une aventure rock and roll. Voilà ce qui se passe avec les Hitmakers. Et oui, alors Bob parlait d'une anecdote.
You have to buy the book to find out.
Il disait que dans son livre, il a posé la question à Nancy Sinatra, savoir si elle avait une expérience sexuelle avec Elvis Presley. Il faut acheter le livre pour avoir la réponse à cette question.
Bon teaser.
These boots are made for walking, ladies and gentlemen. And these boots are going to walk all over to the 106 Club tonight, ce soir, maintenant, in the house, the Hitmakers. What, we got a question? 1-800-4-106-106, what's the question?
We've got loads of questions,
all right,
if
go
you
ahead.
Want.
You are the interviewer.
Are we keeping you from asking questions?
What's the question?
Oh, I don't know, we've got loads of them.
Why a duck?
Why a duck? Pourquoi un canard? I have no clue.
Pourquoi un canard? It sounds so much prettier when you say it.
Not really.
Qu'est-ce qu'il y a de fake chez vous, en fait?
Yeah, on the cover of the LP, you're wearing a sort of a plastic glove, like a reptile glove. So we're wondering if anything else is fake in you.
Shit is fake.
No, it's all fake. It's all fake. It's artificial. Yeah, like polystyrene.
Son polystyrène est également faux, comme le gant qu'il porte sur la pochette de l'album.
On termine avec une chanson, on termine avec un morceau.
Do you want to end up with a song, playing a song for us or?
No.
Yeah.
Yeah. Okay. Thank you.
Une chanson pour terminer l'interview. Do you want to have that, Mike?
Hitmakers. 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 Tonight. Le 106. Avec. We hate you. Please die. I got the shits.
Come on, baby.
Radio Lomax.
Et on poursuit avec un Anglais né dans le comté de Liverpool, membre de plusieurs groupes anglais, The Little Flames ou The Rascals, avant de se lancer dans une carrière solo. Il est également membre du supergroupe The Last Shadow Puppets. Le voici donc solo au 106 le 10 mai prochain, c'est Miles Kane. Miles Gaines, donc en concert au 106 le 10 mai prochain.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Un groupe qu'on a pu croiser l'an dernier au Festival Roche qui se déroulera les 24, 25 et 26 mai prochains. J'en profite pour vous le rappeler sur la presqu'île Relais. De la musique traditionnelle turque et de la pop urbaine mélangée à du rock psychédélique, c'est Altingun.
Nedenini sordum mu? Tirana'dan dünyaya gelen yolcu. Görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi?
Et c'est Olivier, Olivier Marguerite qu'on accueille ce soir. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Olivier Marguerite, c'est O, enfin c'était O. Il y a une raison particulière à ce changement d'appellation, O, Olivier Marguerite.
Ouais, c'est toujours O, mais effectivement avec les nouvelles contraintes de la modernité, notamment de l'Internet, ça devenait très compliqué en fait de garder ce O parce que c'était introuvable en fait sur les différents sites de référencement, que ce soit Google, mais aussi les sites de streaming qui sont maintenant des outils un peu obligatoires pour diffuser de la musique. Et du coup, on a rajouté mon prénom et mon nom pour que ce soit plus facile pour les gens de me retrouver, quoi.
Et ça, cette diffusion sur les plateformes de streaming, etc., c'est quelque chose qui... vous faites attention à ce qui s'y passe
Oui, bien sûr, je fais attention. En fait, maintenant, quand on est artiste et qu'on sort des disques, j'ai l'impression qu'on doit faire attention un peu à tout. Après, c'est plutôt un boulot qui revient à mon label, normalement, à l'industrie, en fait. C'est comment on va développer, vendre la musique qu'on sort, qu'on produit et tout ça. Moi, j'essaie de plutôt m'attacher à mon travail, qui est le premier, qui est celui de faire les chansons et de les faire le mieux possible. Mais il n'empêche que maintenant, on est, bien sûr, acteur de tous ces endroits-là, que ce soit les réseaux sociaux, mais aussi les sites de streaming. Et c'est devenu un endroit apparemment hyper important de découverte. Il faut être sur les playlists, il faut être sur ces différents lieux en fait, qui permettent aux gens de découvrir la musique un peu différemment maintenant.
Alors on vous avait croisé dans Radio Lomax en novembre 2016, on avait parlé de votre formation, d'une maison et d'une vie communautaire du côté de Versailles avec une bande de musiciens qui produiront ensuite Sid Matters. To all of you, American girls, it's sad to imagine a world without you. Sid Matters, dont vous avez fait partie, vous faites toujours partie de Sid Matters, ça continue encore Sid Matters?
Oui, on en fait, le groupe existe encore. Après, on fait actuellement pas grand chose. On a fait, il n'y a pas très très longtemps, une création pour une pièce de musique pour France Culture, création d'une heure autour de l'enfer de Dante. On devrait refaire un projet un peu similaire assez prochainement. Pour France Culture.
J'ai l'impression que vous travaillez aussi un peu pour le cinéma avec Sid Matters, non ?
On a fait un film ensemble, la BO d'un film. Depuis, Jonathan, le chanteur de Sid Matters, fait beaucoup, beaucoup, lui, de musique de film. Donc, ça est devenu un peu son activité principale. Il fait aussi de la musique de jeux vidéo. C'est aussi pour ça qu'on s'est un peu tous perdu de vue. Chacun est un peu parti faire ses trucs. Mais il n'est pas dit qu'à un moment... on est tous toujours très copains, donc il n'est pas dit qu'on ne refasse pas des choses, quoi. On a même plutôt très envie, je crois.
Dans cette communauté, il y avait aussi Ouse de Raquette. C'était Oh Yeah, dont vous faisiez également partie, il y avait aussi les Chicross.
Je ne faisais pas partie de Ouse de Raquette à cette époque-là, mais il y a un moment où j'ai rejoint le groupe. En fait, le chanteur de Ouse de Raquette, Pierre, était mon ami d'enfance. On a grandi ensemble et on a commencé la guitare ensemble. Du coup, toutes nos années de jeunesse et la découverte un peu de la musique, on l'a fait tous les deux. Puis après, lui, il a monté Ouse de Raquette, moi, un autre groupe. Et puis effectivement, à un moment, ils ont eu besoin d'un musicien et je les ai rejoints pour quelques mois.
Alors, votre famille musicale, celle des débuts, en tout cas, c'est une famille qui permet d'avancer, on le disait un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'on se serre les coudes en être issu? Est-ce que c'est un atout aussi pour vivre de la musique, par exemple?
Oh bah oui, moi j'ai toujours, en fait, j'ai découvert la musique par les copains, en fait. C'est une activité sociale. Au lieu d'aller traîner dans les supermarchés avec mes potes ou faire du skate, j'allais répéter le week-end chez des copains. Et donc j'ai toujours associé le fait de pratiquer la musique au fait de voir des potes, en fait. Et donc je suis très, du coup, pour ça, attaché au fait de travailler avec des amis. Donc on a parlé des groupes dans lesquels j'ai joué et qui sont restés des amis et avec lesquels il y avait ces dynamiques-là. Mais encore maintenant, les musiciens qui m'accompagnent, avant d'être des musiciens avec qui je joue, c'est des amis à moi dans la vraie vie, en fait. Et ça, c'est hyper important, enfin, dans mon équilibre.
Il y a 3 ans, on avait évoqué votre passage par une école de musique, l'American School of Modern Music à Paris, vos aventures littératuro-musicales avec l'écrivain Philippe Catherine et Histoire d'eau, votre premier album intitulé Un torrent, La boue, très autobiographique déjà, après 2 EP, Homme Part 1 et Homme Part 2, Homme faisant référence au morceau Homme Sweet Homme de Kraftwerk qu'on trouve sur Radioactivity. On avait également appris dans votre famille, il y avait un Jacques Clément assassin d'Henri III. Je vous renvoie vers l'interview de 2016. En trois ans, il a dû s'en passer des choses dans votre vie, ce qui a nourri d'ailleurs ce deuxième album intitulé À Terre. En février, un EP, justement, ça fait partie des choses que j'ai trouvées sur Deezer qui n'existent pas. Donc, Shaman sur Deezer, ce n'est pas Olivier Marguerite. Vous n'avez pas travaillé de la même façon, j'ai l'impression, avec Un torrent, La boue et À Terre. Comment les choses se sont passées cette fois-ci?
Oui, alors Un torrent, La boue, c'était vraiment donc, le début. J'apprenais à faire des chansons pour moi. Et puis surtout, j'utilisais cette technique du home studio, c'est-à-dire on a son studio un peu sommaire et puis on est seul et puis on s'enregistre, on ajoute des pistes les unes sur les autres et puis à la fin on a un orchestre un peu complet en ayant tout fait soi-même. Là, à l'inverse, je voulais vraiment pas faire ça. J'avais vraiment envie de retrouver ce que c'est que de jouer avec des musiciens dans une même pièce, un petit peu comme on faisait avant dans les studios, comme faisaient les Beatles ou je ne sais qui. Donc je suis passé par l'étape du maquettage, ce que j'avais pas du tout fait sur le premier album, où quand j'avais une idée, je commençais à la travailler et puis ça devenait un morceau au fur et à mesure. Là, j'ai maquetté tous les morceaux. Et une fois que j'ai fait ce travail-là de composition, je les ai présentés à mon label et aux musiciens avec lesquels j'avais envie de travailler. Et en fait, on est allé les enregistrer, ça s'est fait très vite du coup. Et c'est très agréable comme façon de faire parce qu'en 3 jours de prise où on a fait ce qu'on appelle les basiques, c'est-à-dire les basses, les batteries, les pianos, les guitares, 80% de l'album, il est enregistré à ce moment-là. En fait, il y a beaucoup de sons qui est déjà produit et il n'y a plus qu'à faire un petit peu d'arrangement, enregistrer les voix et des choses comme ça. Et on a l'impression que c'est beaucoup moins fastidieux en fait que la technique du home studio qui est vraiment très lente en fait.
Et ça vous a pas trop frustré parce que vous êtes multi-instrumentiste et j'ai l'impression que, en tout cas sur le premier album, tout maîtriser, c'était aussi une envie.
Oui, moi j'adore tout maîtriser et puis je suis hyper contrôle fric. Et même quand je travaille avec des musiciens, je suis chiant. Enfin, je les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Mais il n'empêche qu'en fait, avoir un petit peu de couleur qu'on n'aurait pas capable de créer soi-même, se faire un peu dépasser parfois par des propositions des autres, c'est hyper agréable et j'aimerais bien le faire de plus en plus. C'est un apprentissage un peu long. Effectivement, quand j'ai commencé, je voulais tout maîtriser et j'étais persuadé que c'était exactement ça qu'il fallait faire. Et puis en fait, le chemin fait que souvent déjà après un album on a envie de réagir à celui d'avant, donc je voulais pas faire la même façon, la même formule, et puis voilà, entre temps j'avais travaillé avec des musiciens sur scène, donc ça m'avait apporté beaucoup de choses et j'avais envie que ça se retrouve sur l'album suivant.
Vous dites, quand j'ai commencé à penser à ce deuxième disque, j'ai eu peur de ne pas arriver à écrire. Pourquoi?
En fait, j'ai vraiment vécu ce moment dont les écrivains parlent, la page blanche en fait. C'est-à-dire que j'ai fini la tournée du premier album, j'étais pétri d'envie, aussi de frustration de certaines choses, et je me suis dit voilà, c'est parti, je vais faire le deuxième disque. J'avais des idées musicales, mais qui n'étaient pas encore des chansons, qui étaient des bribes de musique, des choses comme ça, qui n'étaient pas encore organisées. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à vouloir m'y mettre, je ne trouvais pas la clé, quoi. Pendant assez longtemps, j'ai cherché. Je cherchais vraiment une nouvelle façon de placer ma voix, je cherchais quelque chose d'un peu plus tonique, de plus franc, du collier, un peu plus direct. Et j'avais du mal intellectuellement, à y arriver. Et il a fallu que j'attende quelques mois, que je laisse vraiment mûrir de certaines idées et que j'ai un déclic en fait. Il y a eu un morceau qui a participé à ce déclic et qui m'a permis après de me dire « Ah, là j'ai trouvé une voix et je crois que c'est celle-là que je voulais » et après j'ai pu un peu dérouler.
Alors justement, même si la naissance de ces chansons a eu l'air un petit peu difficile à arriver, tout a l'air très pensé, comme pour le premier album. On est dans un concept album presque, j'ai l'impression. On retrouve l'aspect circulaire qu'il y avait sur le premier album, le début de l'album en écho sur la dernière chanson. Comment est-ce que vous avez construit ce disque et pour quelles raisons?
Je ne sais pas si c'est un disque concept. Il n'empêche que je suis quand même lié à cette culture de l'album, du vinyle que j'ai connu dans mon enfance. C'est-à-dire un vinyle ou un album, c'est quelque chose dans un temps très précis et qui doit vraiment avoir une cohérence. Donc j'essaye que les chansons qui vont être sur un album aient une cohérence et que ça puisse s'écouter avec une certaine ligne, quoi, une linéarité.
Oui.
Putain, j'arrive pas à le dire. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je réfléchis beaucoup en termes de dynamique sur un album, mais comme sur un set en live en fait, hein, il faut toujours que les choses aient du sens et il faut que ça crée une dynamique, quoi. Et après, j'avais défini un cadre pour ce disque qui est surtout celui de la chute, du vertige. c'était un peu l'endroit où je voulais un peu travailler, en plus d'avoir des pop songs très, très directs. Et donc, une fois que j'ai défini ça, bah, je me suis mis à écrire. Mais quand j'écris, je n'ai pas forcément la suite logique des morceaux. Ça vient qu'après, quand on commence à organiser, quand on commence à sentir des choses, qu'on se dit « Ah, bah là, c'est super pour commencer. Là, bah, on pourrait revenir vers la fin du disque avec le début. Ça pourrait faire sens et tout ça. » Et ça prend sens au fur et à mesure, en fait, presque inconsciemment.
C'est l'histoire de quelqu'un, parce que c'est vraiment une histoire, moi j'ai l'impression, de quelqu'un qui perd l'équilibre, qui perd les pédales, qui chute, qui cherche à se rattraper aux branches, qui s'ensable, qui reprend la mer finalement. Comment vous regardez cet album a posteriori et ce qu'il raconte quand vous le regardez fini, terminé, comme ça?
En fait, j'aime ce disque parce que j'avais envie d'aller à un endroit et j'ai l'impression que j'ai à peu près réussi à y aller. Parce que parfois, quand on envisage les choses, quand on les pense intellectuellement, on a l'impression qu'on va réussir très très bien à aller à l'endroit où on veut aller et puis finalement on se perd un petit peu en le faisant. Là, à l'inverse, sur ce disque-là, j'ai l'impression que j'avais un fantasme du disque et que quand je me suis mis à le réaliser, je suis à peu près arrivé à l'endroit où je voulais être. Donc ça, c'est plutôt une satisfaction parce que du coup, on sort pas un disque en étant frustré, quoi. Après, du coup, le fait d'avoir fait celui-là me donne envie de faire d'autres choses maintenant en réaction à ça. Mais voilà.
C'est-à-dire quel genre de choses vous avez?
J'avais envie de placer ma voix différemment, de beaucoup plus incarner, de quitter la voix un peu haute que j'avais sur le premier album. Donc d'être beaucoup plus présent en termes vocal. J'avais envie aussi de travailler ces formats pop plus classiques, enfin une intro, un couplet, un refrain, et aussi beaucoup d'outro. J'étais assez attaché à l'idée qu'un morceau, il ne faut pas qu'il se finisse sur un refrain, mais il faut qu'il ait une petite suite en fait, comme une ouverture. Donc j'étais très envie que les morceaux aient ça. Et puis j'avais envie que ce soit assez tonique, que ce soit assez prenant tout de suite, que dès le début des morceaux, on rentre dedans, qui est beaucoup moins l'idée de construction, ce que je faisais un peu avec Cinemators, ce que j'avais fait un peu sur l'album d'avant, où c'est des sortes de longues montées, il y a un début un peu climatique. Je voulais essayer de rentrer un peu plus directement dans le vif du sujet.
Plus pop, quoi.
Plus pop, ouais.
On va parler de musique et de cinéma. Vous êtes fan de Jacques Demy, Michel Legrand, les comédies musicales à la française.
Je ne sais rien de lui et pourtant je le vois. Son nom m'est familier et je connais sa voix. Souvent dans mon...
C'est la chanson de Delphine, Les Demoiselles de Rochefort. Une petite chose surannée, romantique, une photo un peu passée. Qu'est-ce qui vous parle tellement dans ces chansons-là?
Je sais pas, je crois que j'ai découvert Jacques Demy pile poil le moment où il fallait que je le découvre en fait. C'est-à-dire que je l'ai découvert où je commençais à comprendre un peu le cinéma, je commençais à comprendre un peu la musique, j'ai compris le travail qu'il y avait derrière et j'ai pas vu le côté suranné ou un petit peu légèrement romantique, mais j'ai vu plutôt le travail total, quoi, l'œuvre totale. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable cette histoire-là. Les décors, les couleurs, la musique, la façon dont les choses s'imbriquent, le récit. Je me suis dit vraiment, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Donc quand j'ai découvert ça, c'était un pan entier que je découvrais, c'était fantastique. Mais il y a plusieurs lectures, il y a très peu de temps, j'ai fait découvrir Les Demoiselles de Rochefort à ma fille et ça lui a fait un choc émotionnel, comme elle avait jamais fait. Elle s'est mise à pleurer en me disant je pleure parce que c'est trop beau. Donc je pense qu'il y a vraiment dans ce cinéma-là, mais dans plein d'autres, hein, quelque chose d'un peu essentiel qui se produit, quoi, la façon dont les émotions sont gérées, la façon dont la musique emmène le récit, enfin c'est vraiment très très beau. Mais je suis pas le seul, tout le monde aime, enfin tout le monde, beaucoup de gens aiment Jacques Demy.
En tout cas, c'est quelque chose vers lequel vous pouvez tendre un peu.
Oui, bien sûr. Alors là, en ce moment, je crois qu'il y a une sorte de mode de la comédie musicale qui est en train de revenir en France. Je vois pas mal de choses autour de moi qui sont en train de se créer. Donc si c'est une mode qui est en train d'arriver, j'imagine que je vais essayer de ne pas y aller parce que ça m'embêterait. Mais j'aimerais bien sûr. J'adore la musique, enfin la comédie musicale. C'est une belle rencontre, quoi.
Pour continuer à parler de cinéma, dans le magazine Normand Relicto, vous dites pour cet album, il y a eu beaucoup d'images mentales qui sont venues de films. Juste avant l'écriture, j'avais vu plusieurs films de Tarkovsky. Tarkovsky, donc réalisateur russe, cinéma un peu mystique, à l'âme russe bien présente, donc empreinte de fatalisme, d'humanité, de son mystère un peu. Comment est-ce que ça a nourri votre création, vous, ces films de Tarkovsky?
En fait,
qui ne sont pas forcément faciles d'accès non plus.
Non, qui ne sont pas faciles d'accès, mais dans lesquels on plonge un moment et puis on se laisse un peu porter par lui, par sa folie, son regard. En fait, dans le moment d'écriture, le moment un petit peu où on est un peu fébrile, quoi, on est en train un peu de sentir qu'on est en train de poser des pierres, je vais parler pour moi, j'étais un peu à l'affût un peu de ce qui m'entourait. Si je lisais un livre qui me questionnait, il y avait des résonances de plein de choses qui m'arrivaient. En tout cas, je me laissais aller à cette ouverture-là. Et effectivement, c'était le moment où il y a eu la rétrospective Tarkovsky, donc ça doit dater d'il y a maintenant 2 ans. Et puis j'en avais vu certains par le passé, et puis là j'en ai profité pour tous les revoir. Et donc c'est des films un peu de tunnel, quoi, dans lesquels on pénètre, effectivement, ça, c'est assez métaphysique, assez poétique. Donc je rentrais dans ces films-là et je me laissais complètement porter. Et quand j'en sortais, j'avais l'impression d'avoir créé en moi plein de, effectivement, d'images mentales, de nouveaux champs d'horizon, quoi. Et comme c'est des moments où on a envie d'écrire, bah, j'ai l'impression que ça m'a un peu aidé, effectivement, ça a créé des images, ça m'a un peu porté.
Après la famille historique, il y a ces artistes qui vous sont proches aussi. Par exemple, on va écouter Flavien Berger.
Un peu plus de minutes avant l'après. Au matin, j'ai le visage griffé.
Et puis il y a aussi François and the Atlas Mountain. Donc Flavien Berger, François Enzi Atlas Montes, ça fait partie de votre famille du moment, on va dire.
Oui, enfin c'est des gens qui sont un peu dans ma génération et dont déjà j'estime la musique. Et puis j'ai l'impression qu'on fait partie un peu d'un même mouvement, de faire des chansons en français, un peu poétiques, un peu avec des sonorités, j'espère, un peu actuelles. Et c'est aussi des amis par le temps. Il se trouve que c'est rigolo, Flavien et moi, on a fait notre premier concert en même temps, le même soir à Paris, à l'invitation d'un ami à moi, Gida Warski, qui nous avait invités tous les deux. Mmh. Et c'est notre premier concert à tous les deux, donc on était assez fébriles. Et puis voilà, et puis c'est des gens que je croise régulièrement et j'apprécie leur travail. En tout cas, je me sens plus proche d'eux qu'une génération peut-être plus jeune où la musique est plus empreinte de R&B, de rap ou je sais quoi. En tout cas, eux, ils sont encore attachés à cette écriture d'un beau couplet, d'un beau refrain. Enfin, il y a encore des guitares chez François, des choses comme ça. Donc moi, je me sens proche de ça, quoi.
Flavien Berger qui vient de sortir un clip, je crois, avec Salut, c'est cool, aujourd'hui ou hier, un peu surréaliste. Voilà, à découvrir si vous le souhaitez sur Internet. Juste, vous avez fait une reprise de Yves Simon sur l'album Génération éperdue. Mm-hmm. Je t'imagine, la relation à Yves Simon, c'est quelque chose de particulier. Vous l'avez rencontré pour préparer ça, je crois, non ?
Alors, je l'ai rencontré après. En fait, Yves Simon, j'ai entendu parler de ce projet de disque qui était organisé plus ou moins par une maison de disques dont je suis proche, qui sort mes disques. Et en fait, Yves Simon, je connais assez mal. En fait, j'avais lu La dérive des sentiments quand j'étais adolescent. Mais j'avais découvert, un peu par hasard, un morceau de lui qui s'appelle « Je t'imagine ». Et en découvrant ce morceau-là, j'avais été vachement surpris, j'avais trouvé ça génial. Et aussi, j'avais entendu les prémices de ce morceau de Sébastien Tellier qui s'appelle La Ritournelle.
Voilà. Ah oui.
Batterie un petit peu afrobeat, les accords un petit peu enlevés de piano. Et je me suis dit, ah putain, c'est vraiment super. Et donc ce morceau-là, c'est un morceau que j'écoutais très souvent. Et quand j'ai entendu parler de ce projet de tribute, comme on dit, j'ai proposé de faire ce morceau-là, et qui est un morceau assez peu connu finalement, que j'ai découvert un peu par hasard. Et donc je me suis attelé à le faire en changeant justement un peu le groove, en essayant de lui trouver autre chose. Et après, quand le disque est sorti, Yves Simon m'a remercié, m'a félicité et on s'est rencontrés, mec hyper sympa.
Mais finalement, c'est presque un morceau qui aurait pu faire partie de ce deuxième
ouais,
disque. Oui, c'est de
l'approprier, bien sûr. Ouais.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Monsieur O, alors comment vous appelez-vous?
Olivier.
Olivier, Marguerite, merci à vous d'être venu répondre à ces quelques questions.
Et Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Les concerts du 106 cette semaine, ça commence jeudi avec Elliot Murphy et Mark Minnelli. Ça continue le lendemain, vendredi 10 mai, avec Miles Kane et Laure Briard. Et enfin, dernier concert de la semaine, c'est samedi 11 mai avec JS Ondara. À la semaine prochaine. We'll be right back.
Que les gens vont au sol.
Où est-il? Que fait-il? Comment?
Je suis là, sous vos pieds. La pression sur mes tympans est trop forte.
Entend-il? Me voit-il? Peut-il?
La terre dans ma bouche, plus un son. Ça va mieux là, je crois que c'est pas.